En plus des chroniques habituelles et de l'interview centrale, Présidence vous propose un nouveau rendez-vous, le Zoom politique, ou comment revenir en quelques minutes sur l'actualité de la campagne présidentielle de ces dernières semaines. Et on commence avec le chiffre de la semaine, 3,6 millions. Il s'agit du nombre de personnes qui sont non ou très mal logées selon les chiffres du 17e rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal logement en France, dévoilé le mercredi 1er février. 3,6 millions. Dans ce document de 245 pages, la Fondation fait le bilan de 20 ans de politique du logement. Jamais nous n'avons imaginé que nous serions dans une telle situation, tant la violence et l'élargissement de cette crise est venue toucher un grand nombre de personnes, a déclaré Christophe Robert, délégué général adjoint de la Fondation. 700 000 personnes sont privées de domicile personnel en France, dont 133 000 sont sans domicile fixe, indique par ailleurs la Fondation. Mais au total, ce sont donc 3,6 millions de personnes qui sont non ou très mal logées et plus de 5 millions qui se retrouvent en situation de réelle fragilité de logement, selon les termes du document. Devant une telle situation, la Fondation a chiffré le déficit de logement à environ 900 000 unités. Il manque 900 000 logements en France. Le rapport indique que les avis convergent aujourd'hui pour estimer entre 450 000 et 500 000 le nombre de logements à construire chaque année si l'on veut à la fois répondre au dynamisme démographique comme à celui de la constitution de nouveaux ménages et réduire la tension sur l'offre qui est une source majeure de l'exclusion des plus modestes. C'est pourquoi la Fondation Abbé Pierre propose un véritable changement d'orientation des politiques et propose ce qu'il appelle un contrat social pour une nouvelle politique du logement articulée autour de quatre axes, dont les deux premiers sont la maîtrise des prix par une politique de régulation permettant de sortir les logements de la spéculation et l'autre, la production de logements avec un objectif de 500 000 par an, dont 150 000 logements sociaux. Alors après le coup d'éclat de la vraie fausse candidature d'Éric Cantona à la présidentielle, voilà donc le nouveau coup d'éclat de la Fondation Abbé Pierre, son contrat social pour une nouvelle politique du logement. Et pour mieux marquer les esprits, l'organisation recevait ce mercredi 1er février de nombreux candidats à la présidentielle au parc des expositions de la Porte de Versailles pour qu'ils évoquent leur politique en matière de logement. François Hollande a ainsi proposé la construction de 2,5 millions de logements intermédiaires sociaux et étudiants au cours du quinquennat. Eva Joly, elle, veut construire 500 000 logements par an, dont 160 000 logements sociaux. Jean-Luc Mélenchon, le Robin des Bois de la politique, alias au Rambo, pour reprendre les termes de Pauline, avance de son côté le chiffre de 200 000 logements construits par an. Et lors de son allocution télévisée du dimanche 29 janvier, le chef de l'État avait quant à lui évoqué un relèvement de 30% des droits à construire. La Fondation Abbé Pierre appelle les candidats au changement, sinon, comme l'annonçait son célèbre et populaire fondateur peu de temps avant de mourir, il y aura chaque hiver le scandale des sans-logis et chaque été la violence des banlieues. Continue avec l'image de la semaine. Et l'image de la semaine, c'est bien fait quand même, elle est liée aux chiffres de la semaine, puisqu'en effet, l'image de la semaine concerne un événement qui s'est produit le mercredi 1er février lors de la présentation de ce rapport annuel dont je viens de vous parler de la Fondation Abbé Pierre sur le logement. Alors sur scène, il y a François Hollande, costume cravate impeccable, qui relie le discours qu'il va faire à la tribune, un stylo à la main, annotant, rayant certains éléments, s'apprêtant à s'adresser aux membres de la Fondation Abbé Pierre et aux nombreux journalistes venus couvrir l'événement et qui se sont massés au premier rang. Il y a aussi plusieurs photographes, dont un qui se trouve sur l'estrade, à la droite du candidat socialiste. C'est alors qu'une femme, la quarantaine, blouson vert foncé, écharpe turquoise, monte sur l'estrade, par la gauche, un paquet de farine à la main et qu'elle se précipite sur François Hollande, sur lequel elle vide son paquet de farine d'un geste rapide. Le photographe sur la droite de l'estrade a juste le réflexe de se mettre dans l'axe et capte ainsi l'événement, enregistré par ailleurs par les nombreuses caméras vidéo. Sur le cliché du photographe donc, François Hollande, surpris, se fait enfariner. L'image est drôle, saisissante, l'événement anodin. Si François Hollande a été surpris et si son costume est quitte pour un petit tour chez le pressing, rien de grave, c'est que de la farine. Le candidat socialiste a d'ailleurs déclaré aux journalistes « Ce sont les risques du métier ». Si François Hollande n'est pas à plaindre, l'enfarineuse du mercredi l'est beaucoup plus. Tout d'abord, la femme s'est retrouvée plaquée assez violemment et immobilisée par le service d'ordre et de sécurité du candidat socialiste, puis traînée loin de la scène avant d'être interpellée par la police, puis placée en garde à vue au commissariat du 15e arrondissement, alors que François Hollande n'avait pourtant pas porté plainte contre elle. Puis, à 22h30, la décision a été prise de la transférer à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, en raison de son état, selon le rapport, et apparemment de troubles psychologiques. Elle a depuis été internée. Alors, heureusement que la pauvre femme, qui a également vu son nom étalé dans tous les journaux et sites internet, n'était armée que de farine. Sinon, on se demande ce qui lui serait arrivé. En tous les cas, cette affaire farcesque a au moins le mérite d'actualiser un vieux proverbe français oublié. Quand Dieu envoie la farine, le diable retire le sac. Dans le Zoom politique, le mot de la semaine, c'est retrait. Retrait comme retrait d'Afghanistan. En effet, après la mort vendredi 20 janvier de 4 soldats français, portant à 82 le nombre de soldats français morts en Afghanistan depuis 2001, Nicolas Sarkozy a brandi la menace d'un retrait anticipé. Si les conditions de sécurité ne sont pas clairement rétablies, alors se posera la question d'un retour anticipé de l'armée française, a-t-il déclaré. En juin, après la mort d'Oussama Ben Laden, le chef de l'État avait annoncé un retrait progressif des troupes françaises d'ici à 2014, s'alignant sur le calendrier des États-Unis. L'opposition a réagi à cette annonce de la mort des 4 Français, d'abord en exprimant son émotion, évidemment, et ensuite en reprochant à Nicolas Sarkozy de ne pas avoir retiré les troupes françaises plus tôt. François Hollande, lui, a rappelé sa volonté de retirer, je le cite, « nos forces d'Afghanistan le plus rapidement possible, au plus tard à la fin de l'année 2012, en concertation avec nos alliés ». L'ancien ministre socialiste de la Défense, Paul Quilès, est lui aussi monté au créneau à l'annonce de la mort tragique des 4 Français, dénonçant quant à lui la politique de gribouille, selon ses termes, du président et du gouvernement. À ses yeux, les déclarations du président sortant sont liées à l'ambiance électorale et ne suivent pas une ligne logique et clairement établie. À noter que d'ailleurs, d'une manière générale, tous les candidats, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par François Bayrou et Eva Joly, tous les candidats sont contre le maintien du contingent français. Mais si retrait est le mot de la semaine, c'est aussi car cette semaine a vu le retrait de Jean-Pierre Chevènement de la course à la présidentielle. Le Tché a déposé les armes, alors que sa campagne n'avait de toute façon jamais décollé. Les mauvaises langues diront d'ailleurs qu'il n'est jamais autant passé dans les radios depuis 6 mois que depuis qu'il a retiré sa candidature. C'est que le leader du MRC est devenu l'homme à séduire. Il est courtisé, Jean-Pierre. En effet, avant de renoncer, il avait réussi à récolter quelques 400 signatures de maires pour parrainer sa candidature. Alors forcément, ça intéresse. Dominique de Villepin et Marine Le Pen l'ont ainsi contacté pour qu'il leur cède ses parrainages. Entre les soldats français et le vétéran de la politique, cette semaine, on a donc beaucoup parlé de retrait. Vous avez reconnu le jingle, on termine avec l'alerte rouge de la semaine. Et cette semaine, c'est une déclaration de Nicolas Sarkozy rapportée par Le Parisien le jeudi 2 février qui fait retentir l'alerte rouge dans le studio. Selon Le Parisien, le président aurait déclaré « Marine Le Pen fait une erreur d'analyse en faisant une campagne d'extrême-gauche ». Marine Le Pen serait donc d'extrême-gauche. C'est Nathalie Arthaud et Philippe Poutou qui ont dû en avoir le souffle coupé. Il paraît qu'Arlette Laguiller a fait une attaque en se signant pour la première fois de sa vie. Et qu'Olivier Besancenot en a avalé un colis de travers. Paraît même que Trotsky est mort une deuxième fois, bref, ça l'affaire. Marine Le Pen d'extrême gauche, c'est tellement surréaliste qu'on croirait de l'humour belge. Non, Marine Le Pen n'est pas d'extrême gauche. La preuve, elle est créditée de 16 à 21% d'intention de vote dans les sondages, et ça, jamais un parti d'extrême gauche ne pourrait même y songer. Faut-il vraiment argumenter face aux propos de Nicolas Sarkozy sur Marine Le Pen d'extrême gauche, que son prédécesseur aurait qualifié, c'est sûr, d'abracadabrantesque ? Paul Le Pen, d'ailleurs, l'intéressé a répondu le matin même sur RTL. C'est lui qui fait une erreur d'analyse, a déclaré la candidate du Front National. Je ne suis pas de gauche ! La gauche refuse la nation et elle soutient la mondialisation. Même dans altermondialiste, il y a mondialiste. A résumé Marine Le Pen avec sa verve. Mais c'est vrai qu'en défendant la retraite à 60 ans, le maintien des services publics, la démondialisation et l'augmentation des salaires, il fallait bien qu'elle s'y attende à reprendre des thèmes et des mots plutôt défendus à gauche. Elle allait être taxée de gauchiste. D'où le fait que les partis de gauche se sentent eux aussi obligés de remettre quelques pendules à l'heure, pour que ne s'installent pas dans les esprits des Français de fausses idées. Et c'est Éric Coquerel, le conseiller spécial de Jean-Luc Mélenchon, qui a répondu. Marine Le Pen ne veut pas une retraite à 60 ans puisqu'elle prône une retraite à la carte. Elle ne dénonce pas le système puisqu'elle défend l'appropriation capitaliste. Elle est protectionniste, mais ce n'est pas pour combattre les inégalités écologiques et sociales et favoriser le développement. Elle veut fermer les frontières pour les êtres humains, la gauche et pour l'internationalisation. Marine Le Pen tient un discours global qui peut paraître de gauche, mais elle ne l'est en aucun cas. Bon, qu'on soit clair, Marine Le Pen n'est pas de gauche, encore moins d'extrême gauche. Mais si la droite trouve que Marine Le Pen n'est pas extrême, c'est peut-être la droite qui a un problème. Nietzsche disait « Entre amis, il est si beau que le silence soit d'or, mais le rire, bon et frais, l'est beaucoup plus encore. » Il a décidé de ne pas se taire. Tant mieux, car nous faisons de la radio. Voici Antoine et son billet d'humour et d'humeur.
Chers auditeurs, je dois vous le dire, je suis fâché. Transistor, et plus particulièrement notre émission Présidence, est accusée d'être trop marquée à gauche par un écrit dans la tartine, notre journal étudiant à l'ENS. Voilà. On bosse dur, et voilà comment on nous remercie. Vous vous rendez compte, à moi, une taupe de l'UMP dans ce sanctuaire léniniste, me faire ce coup-là? Ça fait des mois que je traite Gérard Collomb de Che Guevara de la gauche molle, que je m'éreinte à décrire Hollande comme un mix entre un lutin du Père Noël et un premier de la classe, et ça c'est quand je le traite pas tout simplement et bassement de yaourt, pour finalement qu'on me dise que je suis trop marqué à gauche. Ah non, c'est trop fort. Je me suis même échiné à faire des atteintes au physique purement gratuites, oui mesdames, quand j'ai dit que le candidat du PS était un rondouillard jovial aux joues roses, et je l'ai quand même implicitement traité d'abruti quand je l'ai comparé à Rentenplan. Cependant, de l'autre côté, souvenez-vous, lorsque j'ai évoqué notre exquis président, à qui l'ai-je comparé avec raison? Au Père Noël, vous savez, ce gentil monsieur protecteur qui ne manque jamais d'adoucir nos misères et de réjouir nos cœurs? Bref, tout ce boulot haletant pour finalement qu'on me dise que je suis trop marqué à gauche. Ah non, c'est vraiment trop fort. Je ne constate qu'une chose. Une chose que d'ailleurs notre président n'a pas manqué de rappeler, mais encore fallait-il l'écouter. Je constate une fois de plus que le travail est mal considéré en France. On ne reconnaît pas les mérites de ceux qui se lèvent tôt et qui bossent. Parce que non. Non, ça n'a pas été facile de faire des chroniques sur Transistor. Il a fallu me faire accepter. Eh oui. Maintenant, je peux enfin le dire, je suis libre désormais, mais infiltrer cette infâme nid de vipère socialiste pour quelqu'un d'aussi à droite que moi, ça n'a pas toujours été facile. Il a fallu que je me fasse pousser la barbe, que j'arrête de porter des costumes et, comble d'horreur, que je me tape une tripotée sans fin de réunions avec les féministes de Sud pour ne pas éveiller les soupçons. J'ai dû ranger mes avis et mes chansons préférées de Michel Sardou, quand d'autres dansaient, nus et imbibés d'alcool et de stupéfiants sur l'hymne soviétique, ou bien faisaient sauter des banques, le couteau entre les dents, ou bien, pire encore, rentraient des MJS avec plein d'immondes autocollants rosâtres et d'ignobles chansons dégoulinantes de bons sentiments et d'un politiquement correct qu'Éric Zemmour, lui, n'aurait pas manqué de dénoncer avec verve, pertinence, brillance et juste ce qu'il faut de relents réactionnaires et de parcimonieuse misogynie pour ne se faire finalement condamner qu'à de l'incitation à la haine raciale. Oui, j'ai fait tout cela, j'ai enduré tout cela, mes chers auditeurs, car je voulais être là le jour, et ciel, nous y sommes, où François Hollande, ennemi de la finance et ami de l'anti-France, risquerait de nous ramener en grande pompe les chars soviétiques. Je voulais être là pour prendre le contrôle de la radio, le jour où la menace reviendrait, et nous y sommes. Reculez, vipères lubriques du socialisme, luttons ensemble contre les assistés de tous bords, arrêtons en ces temps de crise les aides sociales pour les pauvres qui ne les utilisent que pour s'arsouiller, stop à une laïcité trop sclérosante, vive le service minimum qui met fin aux prises d'otages dans les gares et les aéroports, bref, aimons notre grande nation. Bon, finalement, malgré ce discours, vous l'aurez compris, entre droite et gauche, mon cœur balance. C'est terrible, mais à quelques mois de l'élection présidentielle, je ne sais toujours pas quel camp me fait le plus marrer.
Merci Antoine. Notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivie. Pour réagir, vous pouvez ajouter présidence parmi vos amis sur Facebook. Merci à Caroline et Xavier à la technique. Et à très vite sur les ondes de Transistor. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.